Il est midi 18, merci d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Je suis maintenant en compagnie de Jean Rosselot. Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour Jean, vous venez nous parler d'un documentaire, votre documentaire qui s'appelle Amália Rodrigues, ma maison portugaise. Il est diffusé, il sera diffusé dans le cadre de l'émission Une maison, une artiste sur France 5. Un documentaire qui compte avec la participation exceptionnelle de l'interprète de Fado Mizia, mais aussi avec les témoignages de Joana Vinhais Machado, qui est une chercheuse à la Fondation Amália Rodrigues, Rui Vieira Neri, musicologue, Frederico Santiago, responsable de l'édition intégrale d'Amália Rodrigues, entre autres, et qui sera visible le dimanche 6 août prochain à 22h40. Ma première question, Jean, est très simple. Comment a surgi l'idée de ce documentaire ?
Alors, d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de ce film que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé faire. En fait, voilà, ça fait peut-être 7-8 ans que je réalise des films documentaires pour cette collection, Une maison, une artiste, ou Une maison, un artiste. Et c'est passionnant parce qu'on a l'occasion de se plonger dans la vie des gens. Et là, il s'avère que c'est un comédien anglais qui un jour m'a dit, mais tu filmes des maisons d'artistes. Pour moi, la maison d'artistes qui a le plus d'âme au monde, c'est la maison d'Amália Rodrigues à Lisbonne. Mm-hmm. J'avoue que je la connaissais pas. Je connaissais les chansons d'Amália Rodrigues, mais je connaissais pas cette maison. Je n'en avais pas entendu parler. Et du coup, je les ai contactés et j'ai eu la chance d'aller la visiter, d'ailleurs, avec ma mère et mes sœurs à l'occasion de mes 50 ans. Et qu'on a passé un week-end à Lisbonne et j'ai trouvé la maison, évidemment, tellement belle et touchante. Et puis parfois, j'allais dire que parfois, on fait des films sur des maisons et les gens n'y ont pas forcément passé énormément de temps. Mais là, alors elle était beaucoup en tournée parce qu'elle était très populaire dans le monde entier, mais elle y a quand même passé une quarantaine d'années de sa vie. Donc en fait, la maison est vraiment imprégnée de son ambiance et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce film.
Oui, c'est une des résidences principales, si ce n'est la résidence principale d'Amália Rodrigues.
Oui, exactement. Elle avait une maison au bord de la mer aussi, mais vraiment la maison à Lisbonne. Et puis, elle avait un attachement très fort à Lisbonne. Donc, elle est née là-bas, dans le quartier de Pena, dans un milieu très simple, avec une enfance où elle avait pas d'argent du tout jusqu'au moment où elle s'est mise à chanter. Mais j'imagine que la vie d'Amália est sans doute assez connue de beaucoup de vos auditeurs. Mais c'est vrai qu'après, quand elle s'est installée dans cette maison qui est Rua São Bento, c'est un peu au nord du Parlement, en fait, elle voulait quelque chose qui n'était pas non plus la haute société. Elle gagnait déjà bien sa vie. Et elle a voulu se dire, je veux plus être dans quelque chose de trop pauvre, je veux pas être non plus dans quelque chose de trop riche parce que je me sens pas forcément complètement accepté par cette société-là. Et c'était pour elle, c'était le parfait équilibre.
Oui, cette maison, géographiquement, se trouve dans un entre-deux. Elle n'est ni dans la haute ville avec, comme vous le disiez, cette sphère plus élevée, les riches, cette élite. Elle n'est pas non plus dans les quartiers pauvres. Elle est vraiment au milieu.
Oui, exactement. Et la maison est très belle. Elle a une façade jaune. Elle se visite quand on veut. En fait, il y a plusieurs niveaux, mais on sent la présence. Moi, j'ai l'impression qu'on sent la présence d'Amália Rodrigues dans cette maison. Il y a notamment quand on entre, en fait, ce qui était du coup le niveau des la hauteur de ce qui devait être les anciens garages, en fait, qui aujourd'hui l'accueil du musée. Mais on monte, il y a un salon qui est exceptionnel, avec des azulèges tout le long, et il y a un piano, il y a des guitares. Elle a enregistré, en plus, ça c'est formidable pour le travail, pour raconter sa vie, c'est qu'elle a enregistré beaucoup d'albums dans ce salon. Donc mm-hmm. Il existe des photos, mais c'était pas pour elle juste un endroit pour se reposer. C'était aussi un lieu de création très important. Et du coup, la maison de cette chanteuse en a que plus d'âme, je pense.
Et puis quand on entre, on est tout de suite face à un énorme portrait d'Amália elle-même.
Oui, effectivement, comme vous le faites remarquer. Et d'ailleurs, Joana, qui est dans le film, qui est une des chercheuses, a dit que ce tableau, Amália Rodrigues l'avait fait mettre pour dire quand moi je serais morte, parce qu'elle avait déjà, quand avant de mourir, elle a dit qu'elle aimerait que cette maison puisse être ouverte pour les gens qui l'aimaient. Et donc elle a mis ce tableau et elle aurait déclaré à un admirateur, quand je serai plus là, il y aura une autre Amália qui sera là pour accueillir les gens. Et c'est ce grand tableau d'Amália qui est très beau en haut de ce petit escalier qu'on monte. Et c'est déjà une façon d'être accueilli.
Exactement. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'ouvre en partie votre documentaire avec cette belle image de la nouvelle, de la seconde Amália.
Oui, exactement. La nouvelle Amália qui nous accueille. C'est ça.
Jean Rosselot, c'est votre premier travail en lien avec la lusophonie, avec le Portugal plus précisément ?
Oui, alors c'est mon premier travail, mais quand j'ai été tourner le documentaire là-bas, j'ai eu l'occasion de parce que j'ai écrit un roman l'année dernière sur la naissance de l'opéra Carmen, et du coup il y a une soirée qu'on a faite autour où j'ai raconté cette histoire-là à l'Institut français de Lisbonne, à l'Alliance française, excusez-moi, de Lisbonne, et c'était une merveilleuse occasion aussi de découvrir ce côté-là, mais je ne parle pas moi-même portugais, mais c'est mon premier travail, oui, vraiment en lien, et j'espère pas le dernier, parce que d'ailleurs rencontrer par exemple la chanteuse Misia, qui est tellement merveilleuse, dont je connaissais le travail, je me suis dit ce serait formidable de faire aussi des choses avec elle.
Et qui est fabuleuse dans le documentaire.
Ah oui, elle est tellement drôle, elle dit des choses très amusantes, parce que une des choses que je trouvais intéressantes, que j'ai apprise en faisant le film, c'est que Amalia ne chauffait jamais sa voix avant d'entrer en public. Quand je veux dire chauffer, c'est-à-dire que on a l'impression souvent, on voit les chanteurs, les chanteuses faire des exercices pour avoir la voix prête, pour pouvoir notamment monter toutes les notes qu'il faut monter devant un concert. Et Amalia ne le faisait pas, et Amalia, en fait, ses premières chansons, elle se chauffait la voix. Et Misia, c'est la chanteuse dans le film, dit que justement, c'est très bien parce que c'est presque un truc de chauffer la voix, c'est pas de la triche, mais pas loin.
C'est de
Et
la
elle dit
magie,
que,
presque.
voilà, et elle dit que la voix, ça doit être, qu'on doit pas avoir, la voix de la Vierge Marie, elle a dit, Misia, elle a dit, on doit avoir la voix de Marie-Madeleine.
Exactement,
C'est-à-dire une
ouais. Qui
voix
monte et
qui
qui
monte
descend, elle dit, ouais.
et qui descend et qui reconnaît tous les petits accidents de la vie. Et je trouvais cette formule que j'avais jamais entendue extrêmement forte, parce qu'effectivement, une des questions que moi je me posais justement en ne parlant pas portugais, comment ça se fait qu'Amalia, qui a chanté dans tellement de pays, d'ailleurs, quand on visite la maison, il y a un tableau, il y a un planisphère du monde entier, enfin, vous voyez une carte, il y a tous les pays où Amalia a chanté. Et en fait, quand on regarde cette carte, on se demande, mais surtout, en fait, finalement, les pays où elle n'a pas chanté sont plutôt moins nombreux que les pays où elle a chanté. Et donc, je me disais, comment ça se fait qu'elle ait pu créer autant d'émotions au Japon, en Asie, en Afrique, en Amérique, dans tous ces pays-là, alors que le public ne comprend, dans la majorité des pays, ne parlait pas portugais. Et Misia, là-dessus, disait que, d'abord, dans sa propre expérience, Misia a chanté dans beaucoup de pays et chante dans beaucoup de pays, elle fait toujours des tournées extraordinaires. Comment, je lui demandais son explication de comment ça se fait qu'on la comprenait, et elle disait que les points d'émotion étaient les mêmes, quel que soit le pays. Ça veut dire que on va dire, la 10e chanson fait le même effet dans les différents pays, même s'ils la comprennent pas, parce que l'émotion est là. Je pense que le fait de ne pas chauffer sa voix, en tout cas, c'est l'interprétation que je m'en étais faite, faisait que Amalia, transmettait une émotion, même sans forcément. Et les paroles sont pas si importantes. L'émotion qui est mise dans la façon de chanter, de raconter un poème, de traduire un texte, est plus forte que tout.
Oui, c'était son incarnation qui comptait.
Je crois, oui, c'est comme ça que je me l'interprète, oui.
Et Misia avait cette autre phrase au-delà de il ne faut pas chanter comme la Vierge Marie, mais plutôt comme Marie-Madeleine. Elle a cette autre phrase incroyable dans le documentaire qui est il faut que la voix de l'intérieur rencontre celle de l'extérieur.
Oui. Ah, ça c'était ça m'avait beaucoup plu aussi. Et puis on sentait qu'il y a un moment, il y a quelque chose dont j'aurais aimé parler qui m'intéressait beaucoup dans le film. Et à un moment, Misia est très émue quand elle en parle. Si ça vous va d'en parler, c'est le rapport à la révolution des œillets. Et ça, c'est, je dirais que pour nous, en fait, quand on est français, qu'on aime le fado, on a l'impression d'un chant très traditionnel. Et je pense, par erreur, moi, je pensais, avant de faire ce film, que Amalia elle-même était une femme très traditionnelle. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, beaucoup de choses, elle les a inventées elle-même, du fado tel qu'on le connaît nous aujourd'hui. Et qu'au moment de la révolution des œillets, ça a été raconté par Miguel Carvalho, qui est un grand journaliste basé à Porto, et qui parle dans le film, et qui a écrit une énorme somme sur Amalia et la révolution, qui d'ailleurs gagnerait à être traduite en français, je pense, parce que c'est passionnant. Et
Oui,
il disait qu'au moment de...
qui s'appelle Amalia, Dictature et Révolution, une histoire secrète.
Voilà, et je pense que c'est un très beau livre. Et lui, il a gagné l'équivalent, je dirais, du prix Albert Londres en France, mais au Portugal, il fait des enquêtes extraordinaires. Et il disait qu'au moment de la révolution des œillets, il y avait une tendance, il y avait une envie de jeter un peu Amalia par-dessus bord avec le fado, avec tout ce qui était ancien. Or, Amalia n'était pas si ancienne d'abord. Et Amalia, ce qui est fort, ne s'est pas défendue de ces accusations. Mais ce que raconte Misia dans le film, c'est d'abord Amalia avait soutenu des prisonniers politiques, avait donné de l'argent, mais elle n'en a pas parlé quand elle était accusée et d'une certaine façon ostracisée. On n'a plus voulu parler d'elle au moment de la Révolution. Et bien, ce qu'elle a fait, et ce que Midia raconte, c'est qu'au bout d'un moment, elle a voulu faire une tournée. Donc, comme elle n'était plus vraiment bien vue, elle montait sur des camions, elle allait voir des paysans, des agriculteurs. Et elle chantait pour eux, pour leur dire « je suis quelqu'un comme vous, je viens du peuple ». Et ça, quand Misia le raconte dans le film, je trouve ça beaucoup touché.
Elle a des frissons.
Elle a des frissons. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça quand vous m'avez posé la question. Et je trouve que Amalia ressort comme une femme merveilleusement libre et courageuse.
Oui, et surtout le journaliste que vous citiez, donc auteur de l'ouvrage « Amalia, dictature et révolution, histoire secrète », Monsieur Miguel Carvalho, il insiste bien sur le fait que c'est à la fois faux et injuste de faire croire et de dire qu'Amalia a soutenu le régime d'Antonio Oliveira Salazar.
Exactement. Finalement, ce que je sentais, c'est que lui, elle est née, elle est née en 1920, elle avait, je crois, 8 ans ou cet âge-là quand il est arrivé au pouvoir, donc elle a toute sa vie, elle l'a connu. Et finalement, parce qu'une fois, elle lui a écrit un texte pour espérer qu'il aille mieux, et une fois la visite, mais en fait, elle ne l'aimait pas particulièrement et lui ne l'aimait pas non plus, on lui a fait payer beaucoup plus cher. Et donc, je trouve le fait que Miguel Carvalho dise dans ce film que ce qui lui était reproché était profondément faux et injuste après tout le travail. Je crois qu'il a parlé à plus d'une centaine de connaisseurs pour écrire son livre. La rend encore plus magique au-delà de sa musique, de ses textes. C'était une autre des dimensions, d'ailleurs, si on a le temps d'en parler une minute, qui m'intéressait beaucoup chez Amalia par rapport au fait qu'elle dépasse la tradition. C'est cette idée qui est racontée dans le film, notamment par Rui Vieira Neri, qu'à un moment, elle trouve le fado comme un genre un peu trop limité pour elle, et elle a l'impression qu'il y a un petit peu trop de clichés pour elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait au lieu d'arrêter? Eh ben, elle se décide à adapter les grands poètes de son époque, mais des poètes qui n'étaient pas forcément des gens très connus. Et d'ailleurs, dans le film, on raconte que, notamment, elle avait pris la chanson de ce poète qui s'appelle Pedro Homem de Meio, pardon pour ma prononciation, ne parlant pas bien portugais, et il raconte qu'à un moment, elle rencontre Pedro Homem de Meio, alors qu'elle avait déjà chanté sa chanson, qu'elle avait adaptée du poème d'Homem de Meio, et quand elle lui dit ça, elle est gênée, elle lui dit « je suis désolé, monsieur », et lui répond, lui dit « vous m'avez permis que ma poésie monte jusqu'au peuple ».
Oui, cette formule est incroyable, monter jusqu'au peuple.
Oui, j'ai trouvé ça tellement beau et tellement de la part de ce poète de reconnaître que la plus belle chose qui puisse arriver, c'est de venir jusqu'au peuple, et que Amalia, c'est ça qu'elle faisait, c'est qu'elle a fait connaître. Et moi, on me l'a dit pendant le tournage, beaucoup de gens disaient « grâce à Amalia, finalement, toute une culture a pu passer à beaucoup de gens, et toute cette poésie, même si peut-être que la poésie est un genre mieux reconnu au Portugal qu'en France. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent de la poésie en France, mais finalement, elle a permis que ces poètes anciens et contemporains de son époque soient connus par un plus grand public à travers ses chansons. Je trouve ça formidable.
Jean Rosselot, pourquoi avoir décidé de s'intéresser très précisément à Amalia Rodrigues? Puisque dans Lisbonne, il y a aussi la maison de Fernando Pessoa, par exemple, la maison du grand écrivain. Pourquoi la maison d'Amalia?
C'est vrai. Eh bien, alors, c'est vraiment comme je vous avais dit, cette amie m'avait dit qu'elle avait plus d'âme que toutes les maisons, donc je me suis précipité. J'avoue, je n'ai pas encore visité la maison de Fernando Pessoa. Et j'aimerais beaucoup la visiter. J'étais dans le café où il allait écrire tous les jours.
A Brasileira.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ça peut être je ne sais pas si, je la connais pas bien, je sais pas si elle se visite, il y a encore beaucoup de choses dedans. Ce qui était formidable avec la maison d'Amalia, c'est que, tous ces objets sont encore là. Et donc c'était formidable de la raconter, mais j'adorerais faire un film. Vous l'avez vu, vous, la maison de Fernando Pessoa?
Non, ce sera certainement l'occasion la semaine prochaine, puisque je serai à Lisbonne, mais pas encore.
Vous avez de la chance. Eh ben, moi, je vais me renseigner, de savoir, parce que j'ai essayé de me renseigner, j'ai pas encore trouvé toutes les infos, mais j'adorerais faire un film sur Pessoa.
Est-ce qu'il y a d'autres maisons d'artistes qui vous intéressent? Je pense notamment à la maison de Serge Gainsbourg qui va ouvrir prochainement.
Ah bah oui, ah bah en fait, moi je vous avoue que j'ai essayé de faire un film là-dessus et c'était assez compliqué jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça va changer. Bon, il y avait beaucoup de documentaires qui avaient été faits sur lui l'an dernier, mais j'étais passionné par ce que j'ai lu sur la maison de Serge Gainsbourg, notamment, je ne sais pas comment ça va être maintenant qu'ils vont l'ouvrir au public, mais on racontait que jusqu'à il y a un an ou deux, il y avait encore les mégots dans les cendriers. Mais dans les maisons auxquelles je m'intéresse, il y a un autre film, je me suis passionné, une autre femme, parce que j'ai de la chance en ce moment de faire des films sur les femmes, et ça c'est formidable.
Oui, une Irlandaise.
À France 5 a demandé à ce qu'il y ait autant de films maintenant sur des artistes hommes que sur des artistes femmes. Mmh. Et donc, l'autre artiste à laquelle je me suis intéressé, qui est pas très connue, elle s'appelle Eileen Gray, et c'est sans doute la plus grande designeuse et architecte femme du XXe siècle. Et il existe dans le sud de la France, il y en a qui n'ont pas la chance comme vous d'aller à Lisbonne, mais qui vont plutôt sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin. Il y a une maison dont elle a conçu tous les objets, et sachant que un des fauteuils qu'elle a dessiné plus tard a été vendu à 22 millions d'euros, faisant d'elle la designeuse la plus chère au monde. C'est incroyable de penser qu'un fauteuil est parti à 22 millions d'euros. Mais donc, il y a une maison qui a été entièrement reconstituée, qui s'appelle E1027, très mystérieuse, et qui est un chef-d'œuvre de que des bonnes idées de design et d'architecture. Donc ça, c'est l'autre femme à laquelle je me suis intéressé cette année pour en faire un documentaire, et qui sera diffusé la semaine d'après, celui d'Amalia.
Jean Rousselot, c'est combien de temps de travail un documentaire comme celui sur Amalia Rodriguez?
Alors c'est beaucoup, alors après je pense que ça dépend de chaque réalisatrice ou de chaque réalisateur, mais je pense que tous on travaille beaucoup plus que nécessaire, d'abord parce qu'en fait avant de commencer, d'abord il faut se plonger pour essayer de savoir le maximum de choses, donc c'est parler à beaucoup de gens, lire énormément de choses, écouter dans le cas d'Amalia, écouter des émissions de radio, des podcasts, lire tous les livres, des biographies, des choses comme ça, les poèmes. Moi j'ai beaucoup aimé les poèmes, oui parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais Amalia, ce qui est génial, c'est les poèmes qu'elle a écrits.
Toute cette période-là,
c'est extraordinaire, qu'elle n'assumait pas au départ, qu'elle faisait signer par quelqu'un, et à un moment, elle décide de signer ses poèmes, et je trouve que ses poèmes, notamment Estraña Forma de Vida, je trouve que c'est bouleversant. Donc, en fait, il y a toute cette partie de travail, de lecture, et puis après, on prépare ce qui s'appelle une note d'intention de réalisation, où on met sur une quinzaine de pages tout ce qu'on a envie de dire dans le film, et pourquoi on pense, en l'occurrence, puisqu'on raconte à travers la maison, comment on pense que tel aspect de la maison peut permettre de raconter tel aspect de sa vie. Et puis après, il y a le travail de trouver les bonnes personnes pour le film. J'étais très très heureux, les personnes que vous avez citées, évidemment Misia, Miguel Carvalho, Rui Viera-Neri, Frederico Santiago, Johanna. Donc en fait, on cherche les meilleures personnes, et du coup on parle à beaucoup beaucoup de gens avant de se dire, ah, celles-là, elles vont pas dire les mêmes choses, et en même temps elles vont vraiment être les personnes qui connaissent le mieux le sujet. Et puis après, on essaye d'organiser le tournage, c'est-à-dire on a 4 jours pour filmer la maison et faire tous les interviews. Et puis après, donc si on a bien fait son travail au départ et que dans les 4 jours tout est rentré, après il y a les 9 jours qu'on fait de montage. Là, je montais avec quelqu'un qui s'appelle Nathalie Plicot, qui est une monteuse extraordinaire. Et on a 9 jours pour rassembler. Alors l'idée, c'est qu'on a une structure, mais qui peut changer. Puis après, il y a un petit peu de post-production, de mixage, d'étalonnage. Donc ça prend, moi je dirais que ça prend des mois. En nombre de jours, bout à bout, c'est pas énorme. On travaille beaucoup parce que, comme dans votre métier, dans beaucoup de mes métiers, pour être bien dans le peu de temps qu'on a, il faut avoir travaillé beaucoup avant pour être à l'aise.
Effectivement. Jean Rousselot, petite piqûre de rappel. Et quand pourra-t-on voir ce documentaire?
Alors, vous pourrez le voir le dimanche 6 août à 22h40 sur France 5. Il sera rediffusé le samedi suivant, le 12 août, je pense, vers 20h30, aussi sur France 5. Mais l'avantage pour les gens qui sont en vacances, c'est que entre ces deux dates et peut-être plus tard, vous pourrez le voir en replay sur France TV autant de fois que vous voulez. Alors c'est juste, par contre, si on est au Portugal, c'est compliqué parce que le replay ne marche que si on est là où on capte France Télévisions, c'est-à-dire en France.
Sinon sur le site internet.
Et sur le site internet, exactement.
Ce documentaire s'appelle Amalia Rodriguez, ma maison portugaise. Il sera diffusé dans le cadre de l'émission Une maison, une artiste. Une maison, un artiste sur France 5, je le répète, le 6 août à 22h40. Rediffusion le 12 août et à revoir en replay, de toute façon, sur France Télévisions. Merci beaucoup, Jean Rousselot, d'avoir répondu à nos questions.
Didier, c'était une grande chance d'être là et de pouvoir échanger avec vous et de partager l'admiration que j'ai pour Amalia Rodriguez. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce documentaire. À retrouver le 6 août à 22h40 sur France 5.
Merci.